le 18-20.
Et voici le téléphone sonne jusqu'à 20h, notre thème. Comment aider les enfants, les adolescents à mieux se protéger des dangers d'Internet? Quel cadre protecteur, quel accompagnement, quel dialogue pour les protéger, les sensibiliser? Cela concerne les parents, les enseignants, les entreprises du web. Comment protéger les jeunes du harcèlement, des vols de données personnelles, usurpation d'identité, des sites illégaux, racisme, drogue, des sites inappropriés, pornographie, violence, fake news? Avoir son portable, ouvrir un compte Facebook, Snapchat, Instagram, c'est la vie numérique avec ses données indélébiles. Comment rester maître des mots, photos, vidéos qu'on publie pour et avec des amis? Sur les réseaux sociaux, on a tant d'amis et puis les amis, des amis, des amis qui peuvent devenir des prédateurs. Souvent, les parents sont déconnectés, mal connectés ou pas très au courant de ce que font leurs enfants sur le net. Des jeunes devenus accros de cette vie virtuelle, seuls dans leur chambre, à toute heure du jour et de la nuit, en oubliant que sur le net, l'intimité véritable n'existe pas. Comment aider les parents à parfaire l'éducation numérique de leurs enfants? Et pour vous répondre ce soir, on attend vos questions bien sûr au standard, au 01 45 24 7000. N'hésitez pas, le téléphone sonne, c'est votre émission. Pour vous répondre, Justine Atlan, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice générale de l'association e-Enfance, association reconnue d'utilité publique, et votre mission consiste, dans le cadre d'interventions, à sensibiliser les plus jeunes aux bonnes pratiques du numérique, comme de conseiller aux parents, aux professeurs et autres professionnels de l'éducation les manières de mieux éduquer ces enfants au monde du numérique et à ses dangers. Et puis Olivier Houdet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de psychologie à l'université Paris-Descartes, spécialiste de l'éducation de l'enfant et directeur de la PSIDE, laboratoire de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant.
Pierre Veille, le téléphone sonne.
Alexandre est avec nous. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir Alexandre de Paris 14.
Voilà, c'est bien, vous êtes sur l'antenne et nos invités attendent votre question.
Dites-moi, ma femme et moi-même, nous n'avons pas encore d'enfants, mais nous nous interrogeons pour savoir que faut-il faire pour protéger nos enfants des dangers d'Internet et des dérives d'Internet.
Ah bah c'est la question générale du thème de l'émission. Justine Atlan, que dites-vous à Alexandre ce soir, là, comme ça, avec cette question très, très générale, très ouverte,
Bah, c'est déjà, à partir du moment où il se pose la question, il est déjà en bonne voie.
Ouais.
Souvent, les parents ne se posent pas la question. S'il se la pose, ça prouve qu'il a conscience des risques, puisqu'il veut savoir comment s'en protéger, s'en prémunir. Donc, c'est déjà une bonne chose. Parce qu'effectivement, souvent, les parents aujourd'hui se sont débordés par les usages numériques de leurs enfants parce qu'ils n'ont pas du tout anticipé. Donc après, ils ne font que courir derrière des pratiques qu'ils essayent désespérément d'encadrer sans l'avoir fait en amont. Alors ce qu'on dit toujours aux parents, c'est qu'effectivement, avant d'acheter un outil numérique quel qu'il soit, imaginez comment vous souhaitez que l'enfant l'utilise. Donc effectivement, avant d'offrir une tablette, avant d'offrir un smartphone, une console de jeu, réfléchissez à, quand vous allez l'offrir à votre enfant, qu'est-ce que vous allez lui dire qu'il va avoir le droit de faire ou pas, quand est-ce qu'il va avoir à l'utiliser, dans quel cadre, voilà. Sinon, effectivement, l'enfant, lui, si on ne l'arrête pas, bah, il va l'utiliser tout le temps parce que c'est fait pour et que c'est un objet de plaisir et donc il n'a pas de raison de se frustrer tout seul.
Mais alors ça demande une véritable, comment dire, formation professionnelle pour les parents.
Écoutez, aujourd'hui peut-être pas professionnelle parce que
faut maîtriser le sujet.
Il faut maîtriser et pas que. Effectivement, il y a une mise à niveau, je dirais, des pratiques et des usages de ce qui se passe à l'intérieur de ce que font les enfants avec tous ces outils-là. Pour autant, ça reste des principes fondamentaux d'éducation sur lesquels les parents doivent pouvoir se reposer, qu'ils ont en eux, parce que ce sont des principes d'éducation qu'ils adaptent pour d'autres pratiques et qu'il faut juste essayer un peu de façon souple d'adapter pour le numérique. Mais il faut les rassurer sur le fait qu'en général, ils ont en eux les bons réflexes. Il faut juste connaître un peu un certain langage et certaines pratiques. Mais pas qu'ils ont l'impression que c'est un monde complètement mystérieux, c'est pas le cas. Et puis on est dans un fossé générationnel très, très éphémère. Les adolescents d'aujourd'hui vont être des super parents du numérique auxquels leurs enfants ne pourront pas leur faire, je pense.
Mais vous parlez, Justine Atlan, d'un certain langage à utiliser, que les parents doivent utiliser. Donnez-nous des exemples.
C'est vrai que quand un ado va dire à son parent « je suis en train de snapper », le parent ne sait pas ce que ça veut dire de snapper, voilà, bon, ce qui est normal, parce que ce n'est pas fait pour les parents de toute façon. Donc c'est vrai que ça demande aux parents d'aller tout seul voir ce que c'est que Snapchat, de se créer éventuellement un compte, un faux compte, peu importe, un compte, d'aller regarder à quoi ça ressemble pour pouvoir effectivement ensuite dialoguer de façon un peu plus claire et imaginer ce que l'enfant y fait. Aujourd'hui, ce qui dérange le parent, c'est le temps beaucoup que l'adolescent passe sur ces outils. Ça, il le voit. Ça, ça perturbe l'équilibre familial, ça perturbe les repas, ça perturbe les loisirs, le travail. En revanche, ce que l'enfant fait à l'intérieur, ça, le parent ne le voit pas. Soit il fantasme sur des gros dangers très graves et parfois il a raison, mais c'est pas le quotidien. Soit à l'inverse, il sait absolument pas et c'est une zone complètement d'ombre pour lui.
Voilà, c'était Justine Attin, je rappelle, directrice générale de l'association e-enfance. Réaction d'Olivier Houdet, ce début d'émission, professeur de psychologie à l'Université Paris-Descartes et spécialiste de l'éducation de l'enfant.
Pour revenir à la question de l'auditeur, il parlait d'un bébé qu'il n'avait pas encore. Eh bien, faut déjà qu'il sache que si le bébé est déjà dans le ventre de la mère, se construit son cerveau, qui est une autre machine extraordinairement complexe, plus complexe encore qu'un ordinateur, et que la première chose que le cerveau du bébé, du jeune enfant, est capable de faire, c'est imiter l'adulte. Donc ce processus d'imitation est au cœur du fonctionnement du cerveau, parce que nous avons, et déjà le bébé, des réseaux de neurones qui sont des réseaux de résonance motrice et sociale, c'est-à-dire qu'automatiquement, le bébé va avoir envie de refaire ce qu'il voit ses parents faire. Donc, si ses parents sont tout le temps un smartphone à la main ou face à l'écran, le bébé va construire sa relation au monde comme le font ses parents. Donc déjà, premier conseil pour ses parents, qu'ils examinent et qu'ils contrôlent leur propre conduite à l'égard des écrans, qui sera d'emblée un modèle social d'exposition du cerveau du bébé.
Au standard, Philippe, bonsoir Philippe, merci d'écouter France Inter et de participer à notre émission.
Bonsoir. En fait, c'est plus un témoignage et si une interrogation.
Allez-y. Alors,
moi, je suis papa de jumeaux de 10 ans, j'ai 50 ans, ils sont en garde alternée, donc je les ai une semaine sur deux. Donc, on vit dans un appartement hyper connecté, hein, 70 mètres carrés. Moi, je suis informaticien, geek. Donc, il y a du Google Home, il y a 3 PC. Trois smartphones, un Google Home, deux consoles de jeux. On est trois, hein, je précise. L'approche que j'ai eue, c'était d'éveiller leur sens critique. Et alors ça, je l'ai par ma formation scientifique à Descartes, d'ailleurs. Et puis pour avoir fait quelques séjours à la maison de Radio France en tant que journaliste. Donc c'est ne jamais considérer une chose comme étant vraie ou acquise. Que ce soit une chose lue, entendue à la télé, hein, ou vue sur Internet. Donc ça veut dire que quand on rapporte quelque chose, se dire est-ce bien vrai, est-ce que j'ai tous les arguments pour défendre finalement ce que j'ai lu. Et puis si c'est pas le cas, creuser, essayer de trouver où est la faille et de trouver où est la vérité. Alors c'est pas simple, hein. Autrefois moi je le faisais avec les dictionnaires, ils le font avec Google pour pas le citer. Donc ça je dirais que c'est plus par l'éducation, et puis le dialogue, on discute pas mal. Et puis alors l'autre point qui va peut-être se poser plus l'année prochaine, sachant que je n'exerce pas de contrôle parental ni sur leur PC ni sur leur smartphone, parce que je n'ai pas trouvé la solution technique idéale, hein, on va dire, c'est plus les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ils ont ni Facebook, ni Insta, ni Snap, etc. Alors c'est à la fois leur usage, mais c'est aussi l'usage des copains. Je sais que à l'école, ils sont en CM2. Hein. Ils ont des copains qui ont des smartphones et qui accèdent allègrement alors à la maison ou à l'école, hein, avec leur smartphone à des sites à caractère pornographique, oui, par exemple. Et donc, évidemment, ça interpelle les enfants. Donc, l'objet, c'est pas de leur dire « Alors, qu'est-ce que t'as vu ? Est-ce que t'as vu des sites pornographiques ?» Parce qu'évidemment, le gamin va se bloquer. Mais c'est plus d'être à l'écoute des petites choses qui sont parfois anecdotiques. Et pour l'anecdote, un soir, on rentrait du parc où ils avaient joué avec des grands. J'étais à la cuisine, on a Google Home, et j'entends mes gamins pouffer de rire et Google Home de répondre « La sodomie, pardon, est un acte sexuel pratiqué ». Bon, mes gamins, moi j'aurais cherché dans le dictionnaire, eux ils avaient entendu ce mot, ils l'ont cherché sur Google Home. Voilà. Donc c'est, comme le disait votre interlocuteur présent, c'est le temps passé aussi qui est toujours un petit peu délicat à gérer, mais comme moi le temps passé à faire du vélo ou à rentrer tard quand j'étais gamin. Donc c'est bien fixer des limites, effectivement. Et puis, comme le disait votre invité, se les appliquer à soi-même. C'est-à-dire si je passe une heure devant mon smartphone, ça va être difficilement défendable de leur dire de ne pas passer une heure sur leur smartphone.
Bien voilà. Sûr. Philippe, merci beaucoup d'avoir témoigné. Justine Attlan, Philippe pratique le dialogue. C'est un élément essentiel. Expliquer, parler, mettre en garde avec des mots simples.
Oui, ben c'est un des principes d'éducation qui marche pas mal. C'est pas la solution pour tout, mais évidemment, l'éducation, c'est échanger, oui. Parler, effectivement. Surtout, ce qui est important, c'est là où les parents parfois ont du mal. C'est d'ailleurs dans la prévention, c'est toujours la question. Est-ce que si on parle d'un phénomène avant que l'enfant le rencontre, est-ce qu'on risque de lui donner envie de faire la chose, etc. C'est le problème sur la drogue, sur la pornographie, etc. De se dire, et pareil pour les réseaux sociaux. Alors, est-ce que mon enfant va envie d'y aller à un âge où il considère qu'il a pas le droit, alors est-ce que je lui en parle avant, ou est-ce que je le laisse découvrir tout seul, mais alors je n'aurais pas. C'est tous des gros questionnements. C'est vrai qu'aujourd'hui, on aurait tendance à dire, en tout cas pour les usages numériques, qu'il vaut mieux accompagner de façon un peu précoce son enfant à un âge où il est encore captif, c'est-à-dire qu'il a encore envie de effectivement suivre son parent comme modèle et peut-être de refaire la même chose, ou en tout cas de faire bien et d'écouter effectivement les conseils pour ensuite voler de ses propres ailes, plutôt que d'attendre qu'il soit dans l'âge, soi-disant, des usages, qui est plutôt l'âge de l'adolescence, notamment pour les réseaux sociaux, ou alors il va plus du tout être captif pour des conseils parentaux. Il va se retrouver tout seul à faire son expérience tout seul avec ses copains et n'aura pas du tout eu effectivement en amont des repères pour savoir ce qu'il a le droit de faire ou pas faire. Ça ne veut pas dire qu'il va respecter les règles. L'adolescence ne les respecte pas toujours, mais au moins ils sauront où sont les règles. Donc là où c'est intéressant, effectivement, c'est de dire oui, dialoguer, en parler, y compris de la pornographie, puisque effectivement Philippe en parlait et que c'est une question qui préoccupe les parents aujourd'hui, de se dire qu'effectivement leurs enfants peuvent tomber sur la pornographie. Enfin, les enfants peuvent tomber, pas beaucoup, mais les adolescents vont le chercher. En tout cas, ils la trouvent très facilement. Ça, c'est sûr. Donc ça nous oblige effectivement à parler d'un certain nombre de sujets dont on parlait peut-être pas avant.
Alors Philippe évoquait dans son intervention, et on a reçu beaucoup de questions sur le site de l'émission, le contrôle parental. Et on a plein de questions d'auditeurs qui nous demandent techniquement comment on peut protéger nos enfants, bloquer certains sites, bloquer l'ordinateur. On n'a pas d'informations, on ne sait pas.
Parce que le contrôle parental, ça existe depuis très longtemps. Oui. Très longtemps. Les fournisseurs d'accès Internet en France ont l'obligation de le fournir gratuitement. Donc, les parents peuvent l'installer sur ordinateur. Aujourd'hui, le problème, c'est que les enfants ne sont pas beaucoup sur les ordinateurs. Ils sont davantage sur des tablettes ou des smartphones. Le contrôle parental, donc, vous pouvez soit l'installer par votre fournisseur d'accès, soit vous pouvez l'acheter, parce qu'il y en a qui s'achètent, c'est des logiciels. Mmh. Vous pouvez également prendre le contrôle parental qui existe sur les que ça soit Android ou iOS, si vous êtes sur l'iPhone ou autre, qui sont embarqués dans les téléphones et qui peuvent effectivement se paramétrer. Et en ce qui concerne les opérateurs mobiles, ils proposent aussi un contrôle parental effectivement pour les smartphones. Maintenant, le contrôle parental, d'abord le mot est assez mauvais, me penser comme ça, c'est ça contrôle pas énormément de choses partout et c'est pas un parent non plus. Ça filtre très bien la pornographie, ça il faut le savoir. C'est une chose très facile à filtrer, la pornographie, parce que c'est binaire, parce que c'est beaucoup de nudité et des mots clés qui sont assez rares et qui sont toujours les mêmes. Voilà. Pour le reste, effectivement, on peut paramétrer des âges ou un type d'application, par exemple, que le téléphone ne va pas accepter, des réseaux sociaux, etc. Mais ça n'empêche pas le dialogue. De toute façon, il va falloir faire évoluer le contrôle parental en fonction de l'âge de l'enfant, parce que celui que vous allez installer à 10 ans ne va pas être le même qu'à 12. Donc, ça n'évitera pas de communiquer.
Olivier Houdet, vous voulez réagir à ce témoignage qu'on a
oui,
eu
avec
en direct
plaisir.
Avec
d'abord,
Philippe,
pour revenir à la...
qui dialogue beaucoup.
Oui, bien sûr, il faut dialoguer, écouter. Mais ce qui est intéressant à la fois dans la question et dans ce que vous venez d'apporter comme réponse, c'est qu'on caractérise l'environnement extérieur. C'est-à-dire, cet informaticien nous décrit parfaitement, et c'est très riche, tout ce qu'il y a dans son appartement de connecté. Mais je voudrais insister sur le fait que ce qu'on doit comprendre, c'est l'intérieur de la tête de l'enfant, ce qui se passe dans son cerveau. Et il a trois ans, enfin vous êtes trois à la maison avec ses jumeaux, et il indique toute cette complexité de l'appartement ou de la maison. Mais sachez que dans le cerveau de chacun d'entre eux, donc dans ces trois cerveaux, il y a à chaque fois entre 86 et 100 milliards de neurones, 1 million de milliards de connexions, et donc dans le cerveau de chacun de vous trois, il y a un réseau plus complexe qu'Internet. Donc c'est ça qu'il faut expliquer à l'enfant, comment fonctionne leur cerveau, qu'est-ce qui se passe dans leur cerveau. Le cerveau, je parlais tout à l'heure de l'imitation sociale, mais le cerveau est aussi très sensible aux illusions visuelles, mais aussi aux illusions sémantiques, c'est-à-dire les fake news, les fausses informations. Et il faut expliquer à l'enfant pourquoi cette machine extraordinaire qu'il a derrière le crâne est aussi très fragile. Et si on ne va pas jusqu'à ce niveau-là, on ne comprendra jamais rien, parce qu'on ne parlera que de contrôle externe, contrôle parental. Or, ce qu'il faut éduquer chez l'enfant, et surtout chez les préadolescents, c'est l'autocontrôle, l'autorégulation, comme en toute matière. Mais face aux écrans, c'est beaucoup plus difficile, parce que les écrans sont pour le cerveau comme des sucreries. On a envie de les consommer, mais on les consomme trop vite. On confond vitesse et intelligence. Or, il faut, et c'est le titre de l'un de mes livres, apprendre à résister. Et cela est permis par le cortex préfrontal à l'avant du cerveau. Et ce cortex préfrontal est précisément ce qui nous permet de nous contrôler nous-mêmes. Et ça, si on n'explique pas aux enfants, eh bien, on ne leur donne pas la boîte à outils et les clés de fonctionnement de leur propre cerveau. Et le problème contemporain, c'est pas les écrans, c'est le rapport des cerveaux aux écrans. Mmh. C'est-à-dire d'une machine électronique qu'on est en train de mieux en mieux comprendre jusqu'à la conduire vers l'intelligence artificielle et d'une machine biologique très humaine qu'on commence seulement de découvrir aujourd'hui grâce à l'imagerie cérébrale.
Et je signale que vous avez publié chez Nathan, Olivier Houdet avec Grégoire Borst, ce livre « Questions-réponses, mon cerveau ».
Pour les enfants au pied du sapin.
Voilà, et on va aller au standard. Le téléphone sonne. Benoît, bonsoir Benoît.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Oui, alors moi je voulais parler de quelque chose d'assez sensible. Bon, je suis enseignant vacataire, je fais de l'enseignement depuis une dizaine d'années, c'est à peu près l'âge du smartphone, et j'ai constaté la différence entre les premières années, manque d'attention, impossibilité de pouvoir suivre un cours pendant 2 heures. Dès qu'il a un petit moment de flottement, on prend son téléphone. Moi je pense aussi que les parents ont leur responsabilité dans la question de la désociabilisation, parce que c'est exactement ça, ce qui se produit avec les téléphones. C'est-à-dire que moi, j'assiste à des scènes, par exemple, chez mes amis. On est en train de prendre un repas, tout se passe bien. Et d'un seul coup, il y a toujours un moment où les enfants décrochent avec leur téléphone et se coupent complètement du monde et de la conversation. Je comprends pas, dans ces cas-là, que les parents ne demandent pas aux enfants de quitter la pièce, par exemple, alors qu'on les habitue à se désocialiser. En fait, moi, je pense que c'est le cœur du problème.
Justine,
c'est un point de vue, c'est oui. Le mien, je comprends, mais c'est un petit peu à rebours de ce qu'on est en train de discuter ce soir. Voilà. Bon.
Mais c'est très bien de nous avoir appelé ce témoignage de Benoît qui parle de désociabilité.
Désocialisation. Oui et non. oui, évidemment, parce que effectivement, je ne suis plus avec ceux avec qui je suis là ensemble. Donc c'est vrai que être ensemble, ça veut dire quelque chose. Et comme disait Olivier Houdet, l'enfant apprend en regardant et en étant avec l'autre. Donc c'est vrai qu'il faut qu'on reste ensemble et que ceux qui ne sont absents ne prennent pas le pas sur ceux qui sont présents. Donc c'est là où il y a un inverse. Et encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, c'est ce qui est très angoissant pour les parents, c'est qu'ils ont l'impression que ceux qui sont absents sont beaucoup plus présents pour leurs enfants que eux-mêmes qui sont là avec eux. Donc ça, c'est effectivement, il faut pouvoir réguler ça et effectivement avoir des moments où on arrête. Mais comme disait Houdet, il faut que tout le monde arrête en même temps, donc que les parents aussi se déconnectent. Sinon, l'exemple est un peu compliqué à suivre pour le parent. Pour autant, c'est pas du tout désocialisant. Au contraire, l'internet, les réseaux sociaux sont extrêmement socialisants. C'est une autre façon de socialiser qui se rajoute à celle qu'on a pu connaître jusqu'à maintenant, mais qui n'est pas désocialisante, bien au contraire. Et on voit même que des adolescents aujourd'hui qui ne sont pas suffisamment présents à l'âge de l'adolescence, hein, qui est effectivement très 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 en communauté, ne sont pas assez présents sur les réseaux sociaux, sont au contraire assez désocialisés à l'âge de l'adolescence. Donc il faut pas faire de guerre entre la socialisation, les numériques, etc. C'est un peu plus complexe que ça. Pour autant, évidemment, que les parents ont une grosse responsabilité là-dedans. Simplement, il faut bien comprendre que c'est très récent tout ça. Ça fait une dizaine d'années que ça arrive, donc tout le monde a appris en même temps. Les parents et les enfants ont appris en même temps ces phénomènes-là. Donc ils ont été ensemble débordés, ensemble happés. On est tous plongés là-dedans avec une frénésie, une gourmandise, comme disait Olivier Houdet, qu'on a eue. Et on commence un peu aujourd'hui à avoir une crise de foi partagée sur laquelle on essaye effectivement de comprendre que c'est un peu l'overdose et qu'il faut pouvoir réguler. Mais on apprend aussi en même temps les deux générations confondues.
Voilà. Quelques chiffres, les jeunes de 7 à 12 ans passent en moyenne 5h30 sur Internet par semaine et 13h30, donc plus de la moitié la nuit, pour les 13-19 ans. 61% des 13-19 ans utilisent les réseaux sociaux, 48% des 8-17 ans ont un compte Facebook, 73% s'y connectent seuls. Alors on a beaucoup de questions sur le site, je les résume, on nous demande, mais que dit la loi ? Quel est l'encadrement juridique, les interdits juridiques qui existent pour protéger nos enfants sur Internet, Justine Atlan ?
C'est très vaste comme sujet. Ouais. Il y a peu de lois spécifiques à Internet, hein, globalement. En termes d'âge, souvent, c'est ce que les parents questionnent. Il n'y a pas d'âge dans la loi, il n'y a absolument pas d'âge. Il y a une réglementation, effectivement, américaine, qui était la loi COPPA, qui fait que les réseaux sociaux n'acceptent pas les moins de 13 ans. Aujourd'hui, on a eu la nouvelle réglementation sur la protection des données, qui a fixé à 15 ans l'âge à partir duquel un mineur peut donner son consentement à la collecte de ses données personnelles sur Internet sans le consentement des parents liés, donc avant 15 ans, normalement. normalement un parent doit donner pour son enfant le consentement pour la collecte des données personnelles. Pour le reste, il n'y a pas de loi spécifique sur l'usage du numérique. Bon, il y a effectivement dans le cadre de l'école, le ministère de l'Éducation nationale qui a bien réaffirmé en fait une règle qui existait déjà avant, hein, qui fait qu'effectivement l'utilisation du portable dans le cadre d'un établissement scolaire, en tout cas école et collège, est normalement extrêmement réglementé. Pour le reste, voilà, ça reste effectivement de la responsabilité parentale, ce qui est très angoissant effectivement pour les parents de fixer des règles alors qu'ils ont peu de repères aujourd'hui.
Olivier Houdet.
Deux choses. D'abord, dans le débat qu'on a, vous l'avez très bien dit, madame, le recul est très très court. On vit une révolution comparable à celle de l'imprimerie à la Renaissance, il y a bientôt 5 siècles. Donc, on est là à peine après une dizaine d'années de cette révolution numérique. Et c'est déjà formidable qu'on fasse une émission de radio sur ce sujet, qu'on écrive des livres et que les laboratoires de recherche du CNRS, par exemple, mènent des recherches. Et la question que posait le monsieur de la désocialisation, bien sûr, on perçoit tout cela dans notre environnement, il y a donc un vrai enjeu éducatif. Mais un point dans vos questions, le sommeil, la nuit. Ces chiffres sont en effet effrayants. Et dans l'album pour enfants que vous avez la gentillesse de citer, on a une double page sur à quoi sert le sommeil et que fait le cerveau pendant le sommeil. Ben, non seulement on se repose, le corps, mais le cerveau, lui, continue de travailler. Et le cerveau, les réseaux de neurones, la nuit, rejouent et consolident les apprentissages de la journée. Donc si vous ne dormez pas, non seulement vous n'avez pas le repos physique nécessaire à la bonne forme, mais votre mémoire, donc les aspects cognitifs du cerveau, seront moins bons le lendemain pour l'école et puis pour la mémorisation ou le raisonnement en général. Donc c'est un vrai enjeu, je dirais, de santé publique, mais aussi d'éducation publique, et c'est une vraie question morale pour laquelle il faut informer les parents à partir des données scientifiques existantes sur le cerveau, par exemple l'importance du sommeil qui peut être altéré face aux écrans ou au temps excessif face aux écrans. Enfin, il faut aussi exercer une conscience du temps qui passe, on l'a évoqué. Et nous avons mis en place des petits jeux au laboratoire où deux enfants ou deux adolescents sont face à un écran. L'un utilise l'écran pour jouer ou pour, par exemple, utiliser un moteur de recherche ou écouter de la musique. Et l'autre, un chronomètre en main, et mesure le temps qui passe. Ensuite, on demande à celui qui a joué avec l'écran le temps qu'il a passé. Il le note, et à l'autre, le temps du chronomètre. C'est ce qu'on appelle en psychologie la comparaison entre le temps subjectif et le temps objectif. Et il y a une loi fondamentale de psychologie, c'est que le temps subjectif est toujours inférieur au temps objectif. Et on fait une petite soustraction. Et l'enfant se rend compte du différentiel et s'en souvient parfois pour toute sa vie. C'est ce qu'on appelle un réflexe métacognitif. Il se souvient qu'il croit toujours que le temps passé face à l'écran est beaucoup plus court que dans la réalité. Et en fait, on peut entraîner chaque jour les enfants à l'école ou à la maison, pour les auditeurs qui nous écoutent, à ce petit jeu de la conscience du temps qui passe. Et c'est l'un des ça paraît simple, mais c'est l'un des enjeux contemporains les plus importants.
Je rappelle, Olivier Houdet, que vous êtes directeur de la PSYD, c'est un laboratoire de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant.
Du CNRS.
Voilà, et Bertrand nous écoute dans le Finistère. Bonsoir Bertrand.
Bonsoir.
Vous êtes sur l'antenne.
Bonsoir, oui. Oui, j'écoutais, oui, ça rassure, comment dire, entendre monsieur parler de comment la psychologie, enfin voilà, moi je travaille avec mon fils, je fonctionne à l'instinct, je veux dire, parce qu'il joue beaucoup justement. Il joue beaucoup. On est, comment dire, l'époque, c'est Internet, l'époque, on va dire, et on est dedans. Et c'est ce qui fait même, enfin après la réalité, moi je vois. J'ai 44 ans, je suis à la maison, je travaille pas en fait, j'ai eu un accident et voilà, Internet est là, faut faire avec après. Donc moi j'ai pas été beaucoup à l'école et tout ça, donc faut suivre, mais bon, faut faire. Moi je fais confiance à mon fils et j'ai une fille aussi qui est un peu plus âgée. Parce que la réalité, c'est voilà, il manie très très bien l'outil. Et même les adultes, beaucoup d'adultes sont largués et je veux dire, c'est là qu'il est le problème en fait, c'est la maîtrise d'Internet en fait, parce que je vois des choses moi assez terribles autour de moi et voilà, il y a de la casse, psychologique, il y a des jeunes qui détruisent leur jeunesse, enfin voilà, donc les parents sont là bien sûr à côté, mais si le parent comprend pas, voilà, c'est le béaba, je veux dire, quand on comprend, on sait, enfin on arrive à régler le problème plus facilement, voilà, donc c'est ça le truc en fait, c'est que Internet est arrivé et beaucoup de gens déjà n'ont pas Internet, si maintenant, parce que beaucoup de gens maintenant ont le câblage et tout ça, mais c'est pas, voilà, c'est arrivé, c'est un peu, c'est c'est la jungle, on va dire, mais une grosse, grosse jungle.
Bertrand, vous dites quelquefois il y a de la casse, en évoquant des chocs qu'on peut ressentir en allant sur des sites, sur le net. Mais alors, votre fils, par exemple, est-ce qu'il, quelquefois, il vous en parle, il vous dit, voilà, j'ai vu ceci, j'ai lu cela.
J'explique, c'est que là, je viens de déménager il y a un an, en fait. Là où je suis dans le Finistère Sud, j'étais dans le Finistère Nord avant. Là où j'étais avant, en fait, on était dans deux pièces, mais avec, on communiquait, je veux dire, voilà, ça a fonctionné comme ça pendant presque 10 ans. Donc j'ai toujours eu l'œil dessus, toujours. Et il m'appelle, enfin voilà, s'il y a quelque chose qui l'interroge, je suis à côté, je veux dire, je fonctionne, voilà, quand je suis pas, enfin voilà, moi, mon fils et moi, c'est voilà, je suis vraiment très 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 proche, voilà. Même temps, moi, je suis obligé d'apprendre aussi, je veux dire, on peut pas être largué, c'est trop, enfin moi, ça me fait peur, donc après, moi, je peux pas en tout cas. Donc après, si des parents, eux, se sentent, enfin, moi, je suis pas rassuré quand je maîtrise pas, comme je dis, quand on sait pas, voilà, l'ignorance, c'est ce qu'on, voilà, c'est le béaba de l'éducation. Enfin voilà, c'est le béaba d'apprendre, voilà, apprendre fait que voilà, ça ouvre beaucoup
Bien
de
sûr.
Portes.
Merci Bertrand d'avoir témoigné. Justine Atlan, directrice générale de l'association e-enfance, un mot sur ce témoignage de Bertrand?
C'est ça, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Effectivement, il le dit très bien, le fait de pas savoir qui angoisse beaucoup. Et effectivement, cette espèce de génération où personne ne sait. L'adolescent, l'enfant, c'est normal, mais les parents non plus. Donc, il n'y a pas de repère, effectivement, d'adultes qui ont déjà eu une première expérience sur ce que l'enfant et l'adolescent vit. Donc, c'est vrai que c'est déstabilisant pour tout le monde. On apprend en marchant, mais comme le disait Olivier Doué, on est finalement assez réactif malgré tout. Regardez les téléphones maintenant, commencent à nous dire combien de temps on a passé. Justement, ils peuvent commencer à nous dire, vous avez passé cette semaine, vous avez passé tant de temps sur votre écran et vous avez passé tant de temps sur tel genre d'application, etc. Certains réseaux sociaux comme Instagram le disent aussi. Voilà, donc c'est une demande que les utilisateurs ont, qui a été finalement comprise par certaines plateformes qui le montrent. Alors, est-ce que pour autant ça va changer le comportement des gens? C'est ça qui serait intéressant de voir. Est-ce que cette information, qu'est-ce que j'en fais? Je le vois, ça me rassure, ça m'inquiète, mais est-ce que je change du coup la semaine d'après ou est-ce que je m'en sers? C'est là où ça serait intéressant de le voir parce qu'on a tous cette conscience-là du temps. Parfois, on se prend une grande claque en disant là, mon Dieu, je passe 5 heures par jour, c'est beaucoup. Parfois, voilà, un peu moins, et de voir sur quoi. Et puis, c'est vrai que c'est un puissant fond, hein, sur lequel, effectivement, on ne peut jamais s'arrêter. Et puis, on a bien vu que certains inventeurs de ces réseaux sociaux ou de ces smartphones ont quand même conçu aussi des outils qui sont faits pour venir nous chercher en permanence, hein. Les notifications, les couleurs, enfin tout est fait pour rendre ces outils extrêmement addictifs en fait. Et les jeux vidéo, n'en parlons pas, l'OMS l'a reconnu dernièrement que c'était effectivement, ça pouvait faire partie des addictions. Donc c'est vrai qu'il y a aussi des volontés, hein, industrielles qui ont été de nous rendre accro à tout ça. Donc maintenant, comment on fait pour débrancher un peu et reprendre la main, maîtriser. Mais comme le disait, c'est notre esprit qui maîtrise tout ça. Donc l'esprit critique, c'est vraiment la base de tout.
Olivier Houdet,
oui, dans le témoignage de ce monsieur, c'est le mot pour confiance qui pour moi est clé. Oui. Soyons, il y a un aspect positif. Dans l'éducation, il faut faire confiance. Et le cerveau aussi a besoin de confiance. Il a été démontré scientifiquement qu'un cerveau apprend mieux s'il peut faire confiance, et ça se mesure dans le temps, à la personne qui lui apprend. Enfin, je dirais qu'en effet, il y a une grande incertitude et la connaissance non seulement des machines mais du cerveau est importante parce que on parlait d'addiction ou en tout cas de tentation forte. Il y a dans notre cerveau un processus qui s'appelle le contrôle inhibiteur, la capacité qu'on a d'inhiber notre réponse trop rapide sur l'écran. Vous savez qu'on a une génération d'adolescents qui clique, donc qui prend un nombre de décisions incroyable par jour. Eh bien, chacune des décisions pourrait être ralentie pour laisser au cerveau le temps de déclencher un circuit un peu plus lent, mais qui sera plus profond, qui sera du raisonnement, de l'esprit critique. Et aujourd'hui, je voudrais simplement que vous sachiez ça, dans les laboratoires scientifiques, comme le mien à la Sorbonne du CNRS, on étudie cela très près. On suit des élèves de primaire et des adolescents grâce à l'IRM et aussi à des batteries de tests comportementaux, cognitifs et sociaux, comment le jeu sur écran ou l'utilisation des écran modifie ou non le cerveau et qu'un suivi longitudinal avant un mois, après un mois, en collaboration avec les écoles, les parents. Et donc la science est en train d'avancer beaucoup, et notamment la science française sur ce sujet-là, mais on est encore dans un moment très, très bref, très rapide par rapport à la révolution technologique. Mais sachez qu'on fait des découvertes, et des découvertes sans doute solides, qui nous apprendront demain à mieux utiliser à la fois notre cerveau et notre corps avec les écrans, parce qu'on ne va pas déconnecter le monde.
Direction Rouen, Anaïs est avec nous au téléphone. Bonsoir Anaïs.
Bonsoir.
Vous êtes sur l'antenne et nos invités sont prêts à vous répondre.
Oui, donc je voulais témoigner en tant que bibliothécaire spécialiste du numérique à Rouen, qu'en fait c'est très peu connu par le grand public, mais en fait les bibliothèques sont des lieux qui éduque énormément les enfants, comme les parents d'ailleurs, au numérique. Donc à la fois en proposant des ateliers, par exemple, des ateliers pour ceux qui ne connaissent pas l'informatique et qui veulent le découvrir, mais aussi des ateliers pour les parents, pour la sécurité informatique de leurs enfants, pour leur propre sécurité numérique également. Il y a aussi énormément de conférences, et là je parle vraiment des bibliothèques en général. Les bibliothèques sont des nouveaux acteurs en fait du numérique assez importants dans les communes. Donc voilà, et c'est très peu connu en fait ça encore.
Mais c'est parfait de l'avoir signalé ce soir, de l'avoir dit sur l'antenne, Anaïs à Rouen. Alors des questions, je les résume hein, sur le site de l'émission. On nous demande, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à l'école, dans les lycées, les collèges? Internet peut apporter des connaissances extraordinaires, mais là encore, il faut faire attention. Il peut y avoir des sites bidons, des sites dangereux, des fake news. Est-ce qu'actuellement, dans les lycées, dans les collèges, il y a de véritables cours où on explique aux collégiens, aux lycéens, les dangers d'Internet?
Alors, il y a effectivement dans les fondamentaux maintenant l'éducation nationale, l'éducation aux médias qui est très présente, hein, qui d'ailleurs existait avant Internet dans le principe, hein, éduquer aux médias, éduquer effectivement d'ailleurs à la communication, au marketing, à la publicité, mais aussi effectivement à ce qu'on a dit aux fake news, en fait à ce dont a parlé Olivier Audet, qui est extrêmement important dans le rapport qu'on a à Internet, c'est les biais cognitifs, effectivement, ce qui nous fait croire à des choses, ce qui est fait pour nous faire croire et nous faire adhérer à ce qui nous est vendu comme de l'information, qui n'est en fait qu'une manipulation, parce qu'à partir du moment où j'utilise quelque chose pour avoir un effet sur vous, je suis en train de vous manipuler. Et effectivement, les adolescents, les adultes aussi, parfois n'ont pas forcément suffisamment conscience du fait qu'Internet n'est pas, justement, comme dans une bibliothèque, n'est pas une encyclopédie, n'est pas un dictionnaire. Ce sont effectivement des contenus qui sont mis en ligne par des gens qui donc veulent que leur contenu ait un effet sur celui qui les verra, quel que soit l'effet. Mais donc il y a une intention derrière. Donc effectivement, il faut apprendre aux adolescents ça. Qui a mis en ligne, qui c'est qui l'a mis en ligne, pourquoi, etc. C'est ce que fait l'éducation aux médias. Donc il y a ça qui fait vraiment, qui traverse, l'esprit critique traverse toutes les matières. Les sciences, certes, mais aussi l'histoire, mais aussi la littérature, mais aussi les mathématiques. Voilà. Donc ça, normalement, les professeurs ont conscience de ça et l'apprennent aux élèves. Et puis, il y a des structures comme les nôtres, les associations qui interviennent dans le cadre, effectivement, scolaire pour, alors là, précisément, apprendre aux adolescents et aux enfants à avoir des pratiques responsables du numérique, c'est-à-dire, effectivement, à déjouer un certain nombre de pièges, à comprendre comment ça fonctionne. Aujourd'hui, c'est important que les adolescents comprennent, y compris le modèle économique de l'Internet, parce qu'il n'y a que en comprenant le modèle économique, c'est-à-dire la pseudo-gratuité, qu'on comprendra effectivement comment tous ces outils fonctionnent, qu'est-ce qu'on collecte de nous, qu'est-ce qu'on a envie que j'ai comme action, pourquoi on me demande de cliquer. Enfin, voilà, tout ça, c'est une vraie économie, un vrai business, effectivement, et nos comportements sont induits, alors là, effectivement, de façon très précise, mais pour que derrière, il y ait une rentabilité en fait économique pour celui qui a créé le site ou les contenus. Voilà, donc ça, c'est très important que les adolescents le sachent, parce qu'il n'y a que en étant un utilisateur éclairé, en comprenant comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on attend de moi et pourquoi, que je pourrai avoir des choix beaucoup plus, effectivement, libres, en réalité, in fine.
Olivier Audet.
Alors la question des biais cognitifs que vous avez évoqués est essentielle. Donc nous, on étudie précisément les biais cognitifs qui se déclenchent dans le cerveau face à un écran. Il y a eu, vous le savez peut-être, un psychologue, Daniel Kahneman, qui a obtenu le prix Nobel en 2002 en économie pour avoir démontré ces biais cognitifs, notamment chez les agents économiques, mais ça vaut chez chacun d'entre nous. Et l'un de ces biais cognitifs majeurs que nous avons tous, c'est le biais de crédulité. C'est-à-dire qu'on a tendance à penser vrai ce qui est très crédible, ce qui entre dans notre cerveau en conflit avec la validité logique. Et vous avez un algorithme qu'on a tous appris à l'école, qui est les syllogismes, la logique, la validité logique, la vérification d'une information. Mais on a une heuristique, c'est-à-dire un automatisme beaucoup plus rapide dans le cerveau, qui est la crédulité, c'est-à-dire les fake news. Et notre cerveau, on peut comprendre aujourd'hui pourquoi, est extrêmement vulnérable à ces choses très crédibles que l'on voit sur l'écran. Elles peuvent être, une fois de plus, des informations, donc sémantiques, ou aussi très visuelles. Et ça, c'est une fois de plus l'enjeu aujourd'hui. Et nous sommes en train de découvrir comment le cerveau peut néanmoins développer un mécanisme qui inhibe ces automatismes trop rapides de réponse ou de pensée. Et cette crédulité se renforce aujourd'hui par une autre heuristique, l'heuristique de l'affect, l'affectivité. C'est-à-dire que quand les jeunes adolescents cliquent, c'est un like, j'aime ou je n'aime pas. Mais votre cerveau qui raisonne en termes j'aime ou je n'aime pas, ne raisonne pas du tout en termes est-ce que c'est vrai ou c'est faux. Et donc là, il y a un réel enjeu qu'on résume par ce mot l'esprit critique, mais qui n'est plus seulement une question de philosophie, qui est aujourd'hui une question de science et d'exploration de la façon dont notre cerveau fonctionne, et j'insiste, tenir au courant les enfants et les adolescents de ces recherches sur leur cerveau en fonctionnement face aux écrans et dans le monde.
Eric est avec nous. Merci Eric d'écouter l'émission et d'y participer. C'est à vous maintenant.
Oui, bonsoir. Bonsoir.
Allez-y.
Alors voilà, je suis ancien éducateur et en fait, il y a déjà un certain nombre d'années, on va dire 7-8 ans, j'ai eu la demande d'un jeune dont je m'occupais dans une maison d'enfants qui était un jeune majeur. Et ce jeune me dit, Eric, écoute, j'ai regardé des vidéos pornographiques et voilà, il m'expliquait un peu son désarroi parce que ça le dérangeait. Alors j'ai pensé faire mon boulot en lui disant, écoute, si tu t'intéresses à la sexualité, eh bien je te suggère plutôt d'opter pour des informations de ce type, mais faites par un sexologue. Il existait à l'époque un DVD qui m'a semblé intéressant puisqu'il était, comme je viens de le dire, à l'origine d'un sexologue, et c'était pas du pornographique. Il y avait effectivement des scènes de sexe, mais ce jeune étant majeur et je ne pouvais pas de toute façon l'empêcher d'aller consulter ce qu'il voyait, donc il m'a semblé plus raisonnable de lui faire constater la vraie sexualité selon un professionnel, et ça m'a été reproché et j'ai été viré, figurez-vous. Et voilà, et je me rends compte que souvent ceux qui se rendent compte des choses avant les autres sont incompris, surtout lorsqu'il s'agit de tabous, et là ben, on entend parler maintenant de ce sujet avec des gros problèmes pour des jeunes qui identifie la sexualité de la même façon que la pornographie, voilà.
Vous avez perdu votre emploi parce que vous avez dit à ce jeune, voilà, absolument, regarde un DVD d'un sexologue, absolument, qui va t'expliquer, absolument, la sexualité.
Oui, ce jeune était en couple. Bon. Ce jeune était en couple en appartement, et donc on avait quand même un lien éducatif. Ouais. Et puis donc il avait une vie sexuelle, y compris avec sa petite amie, puisque on ne le questionnait pas sur ce point, mais lui s'en en parlait, hein. Et donc ils ont même fait un enfant plus tard. Et donc oui, moi je.
Mais il avait été choqué parce qu'il avait vu sur ses,
oui, c'est ça,
ses films porno. Justine Atlan, voilà, sur ce témoignage d'Éric.
Sur son histoire en particulier, je ne peux pas me prononcer, oui, on n'a pas assez d'éléments, mais en revanche, ce qui est sûr, c'est que la pornographie a un vrai sujet aujourd'hui dans la facilité d'accès qu'il y a effectivement sur Internet pour les mineurs, puisque en tout cas jusqu'à maintenant la pornographie est interdite, enfin est réservée aux majeurs en France, donc elle est légale mais réservée aux majeurs. Donc on se trouve effectivement confronté au problème de dire comment on fait sur Internet pour laisser exister des contenus qui sont légaux, donc il y a aucune raison de les filtrer, de les interdire, mais qui doivent être réservés à ceux qui peuvent prouver qu'ils sont une majorité. Or pour l'instant sur Internet, on a du mal à pouvoir prouver l'identité et authentifier l'identité de quelqu'un sur Internet. On peut le faire pour effectivement des mouvements bancaires, des choses comme ça, mais pour consulter des contenus, on n'est pas encore arrivé à une espèce de carte d'identité électronique. Donc pour l'instant, on n'a pas trouvé beaucoup de solutions à part, à l'inverse, le contrôle parental ou ce type de filtrage. Sur des idées de pouvoir faire du déclaratif sur les majeurs, bah, on en arrive à des questions comme en Angleterre, est-ce qu'on va faire un fichier des consommateurs de contenus pornographiques ? C'est pas forcément évident à mettre en place. Voilà, donc on se trouve à des questions. Maintenant, ça, c'est comme je disais au début de l'émission, il va falloir parler de sexualité un peu plus qu'on le fait en France, là, aux adolescents. Mais c'est pas forcément parler de pornographie.
Olivier Houdet.
Oui, je dirais de façon générale, éduquer plutôt qu'interdire, le plus tôt possible. J'évoquais le bébé au début de l'émission qui déjà observe ses parents dans leur rapport avec les écrans. Et j'ajouterais que l'école aussi a comme mission lire, écrire, compter, penser, l'esprit critique qu'on a évoqué, et respecter autrui. Eh bien, il faut aujourd'hui, dès le plus jeune âge, non pas interdire les écrans, mais éduquer à un usage raisonné des écrans en fonction de ces grands invariants éducatifs.
Olivier Houdet, professeur de psychologie à l'Université Paris Descartes, spécialiste de l'éducation de l'enfant. Justine Atlan, directrice générale de l'association e-enfance. Si on veut joindre votre association, avoir de l'aide, comment faut-il faire ?
On a un site internet et on a surtout un numéro vert qui s'appelle NetEcoute, qui est le 0800 200 3x0, 0800 200 000, qui est gratuit, anonyme et confidentiel.
Merci à nos invités Justine Atlan et Olivier Houdet. C'était le Téléphone Sonne. Vous écoutez France Inter. Bravo, il est 20h23.